France Inter. Le 18-20. Fabienne Sintès.
Les jeunes n'est rien qu'en disant cela, j'entends des cris et c'est bien normal, comme s'il y avait des jeunes qui se promènent comme un groupe monolithique. Néanmoins, les 18-24 ans font partie de cette partie de la population particulièrement scrutée et observée par les politiques parce qu'ils pèsent électoralement, ils pèsent lorsqu'ils votent et c'est peut-être là l'un des soucis. Pour voter, il faut avoir envie de donner son bulletin à un homme ou à une femme et il semble que même si l'envie de participer à la vie démocratique est bien là, personne ne soit, en tout cas peu des candidats soient capables aujourd'hui de répondre à cette envie. D'une étude à l'autre, ils sont nombreux à dire qu'ils s'intéressent à la politique mais que c'est la politique qui ne s'intéresse pas à eux. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles ils préfèrent souvent une autre forme d'engagement qui ne les emmène pas forcément vers le vote. Mais les jeunes, cette année particulièrement, font aussi partie de cette catégorie de la population qui a été tellement malmenée par la pandémie. On leur a demandé de protéger les aînés, on leur a demandé de suivre des cours à distance, on a annulé leur stage, on a annulé leur voyage à l'étranger, on a fermé leur bar, on vient à peine de rouvrir leur discothèque. Ils ont des choses à dire aux candidats, ces jeunes-là, ils le feront en face à face demain à France Inter, dans le studio 104, devant 8 candidats qui ont accepté de jouer le jeu. Ce soir, comme une mise en bouche, on en parle au téléphone. Sonne qui, à la préférence des primo-votants, que voudrait-il entendre des candidats? Qu'est-ce qu'ils n'entendent pas justement dans leur discours? C'est le téléphone sonne ce soir et soyez les bienvenus.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Une fois n'est pas coutume, commençons par un mail pardon sur franceinter.fr. J'y suis, j'ai bien une candidate à laquelle j'adhère. Elle s'appelle Hélène Touy et elle souhaite amener la cause animale dans le débat de la présidentielle, mais elle n'a guère de chance d'être entendue car les médias la mentionnent très peu et les sondages ne l'intègrent pas du tout dans leur panel. Voilà, ça commence comme ça aussi et ça dit également des choses, ce genre de mail. Je vais vous présenter avant que vous puissiez répondre à cette question. Les gens qui sont autour de la table ce soir, nous avons d'abord Angèle Minet, bonsoir. Je commence avec vous, vous êtes étudiante ingénieure et vous participerez demain à la grande rencontre au Studio 104. Vous nous direz quelles questions vous avez l'intention de poser aux candidats qui seront là. Salomé Berliou est là également, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directrice générale de Chemin d'Avenir et cette rencontre, elle est à votre initiative. Vous nous raconterez également ce que tous ces jeunes que vous fréquentez ont dans la tête. Et Brice Teinturier également est là, bonsoir monsieur Teinturier.
Bonsoir.
Le directeur général délégué de l'Ipsos. Vous aviez fait, on en avait parlé ici d'ailleurs, un sondage autour des jeunes. Et votre dernière livraison, si je puis dire, et nous intéresse aussi d'ailleurs pour ce qui est des jeunes gens, parce que vous parlez des attentes en matière de leadership, d'attache aux valeurs républicaines, et ça parle évidemment aussi à cette génération-là. Et c'est marrant, je vais commencer avec ça. C'est pour ça qu'on a choisi d'ailleurs ce mail-là, Salomé Berliou, parce que là, en l'occurrence, on est en train de parler de la cause animale, mais le sentiment qu'on a, c'est que l'offre, elle est là. La volonté et l'envie d'y aller est là aussi. Après, il manque l'adéquation, au fond, entre l'offre et la demande, entre jeunes et candidats.
Oui, évidemment. C'est assez vrai ce que vous dites. C'est-à-dire que, et ça, Brice Teinturier le dira mieux que moi, mais on voit bien qu'il y a ce désintérêt pour le vote. En tout cas, les jeunes ne vont pas beaucoup voter, c'est un fait. Ils ne l'ont pas fait aux dernières élections départementales, régionales. Et avant cela, au deuxième tour, notamment des présidentielles, les chiffres le montrent. Il y a aussi une désaffiliation, une forme de détachement vis-à-vis des partis et vis-à-vis des hommes et des femmes qui les incarnent. On voit très bien, par exemple, que pour les enjeux écologiques, les jeunes se disent très fortement engagés sur le sujet, mais pour autant ne se reconnaissent pas forcément dans le parti ou l'homme qui le porte. Et en même temps, moi, ce que je veux dire tout de suite, parce que je pense que ce sera un des messages que je chercherai à porter au cours de cette émission, comme dans la journée de demain d'ailleurs, c'est que en parallèle, on voit des jeunes extrêmement désireux, extrêmement soucieux de s'engager.
Ça, pour le coup, c'est ce qu'on voit effectivement partout. De l'envie, il y en a, de l'envie. Vous en avez, j'imagine, Angèle Minet. D'abord, quel âge vous avez ?
22 ans.
22 ans. Donc, ce sera la première élection présidentielle.
Tout à fait.
La première élection tout court ou pas ?
Non, il y a eu les européennes aussi.
Oui, mais vous aviez voté, je veux dire.
Oui, bien sûr.
En revanche, les régionales de. C'était quand déjà ?
2020.
J'ai oublié. 2020, c'était deux ans, à peine un an et demi, deux ans.
J'avais fait procuration.
D'accord, mais vous aviez voté aussi.
Tout
donc,
à fait.
On va vous mettre sous verre, Angèle, parce que vous faites partie de ces jeunes gens qui votent. Et encore une fois, et c'est ce que disait Salomé Berliou, l'envie, elle existe. Est-ce que cette adéquation, vous la sentez aussi? Est-ce que vous le connaissez, votre candidat, par exemple, vous, là, au moment où on se parle?
Alors, je ne le connais pas très, très, très bien. C'est vrai que cette année, je n'ai pas eu beaucoup de temps pour me renseigner un peu sur la campagne présidentielle, mais j'ai pas mal d'amis quand même qui s'intéressent à ça et enfin qui essayent en tout cas de comprendre mieux chaque candidat.
Mmh. Et c'est marrant parce que vous n'avez pas eu le temps, et pourtant vous dites, et pourtant Dieu sait qu'ils sont là. Enfin, si on veut aller les chercher, honnêtement, bon, on a les télés au-dessus de nous là, par exemple, en ce moment, c'est pas difficile en fait d'aller chercher les candidats en ce moment.
Alors ça dépend, je dirais, parce que il y a beaucoup de contenu sur Internet, mais moi ce que je trouve compliqué, c'est savoir où chercher, quoi chercher, qui croire, et savoir qui dit vrai. Tout ça, je trouve que c'est compliqué de se retrouver dans toutes ces informations, en tout cas.
Mm-hmm. Brice Teinturier, là-dessus, et c'est ce que disait votre précédent sondage d'ailleurs. L'envie est là. Alors oui, vous faites comme ça avec la tête, donc effectivement pas toujours, mais en fait, je vais y reformuler. L'envie de politique, elle est là. L'envie de politique et l'envie de voter sont pas forcément deux choses qui vont ensemble dans cette génération-là.
Exactement, parce que moi je crains que la crise ne soit beaucoup plus grave que cela. C'est-à-dire, il y a aussi toute une partie de la jeunesse qui n'a plus envie, mais plus du tout envie d'aller voter, qui ne se retrouve pas dans les partis politiques, qui ne se retrouve pas dans les candidats. Et puis il y a une autre partie de la jeunesse, ça c'est vrai, qui continue à être très impliquée, à vouloir participer au système, mais qui peut trouver aussi que ce système ne les prend pas assez en compte, ne donne pas assez facilement accès aux programmes, aux idées. Donc il y a les deux. Mm-hmm. Mais incontestablement, et les chiffres de l'abstention sont une expression absolument terrible, le risque, c'est une démocratie des seniors. C'est une démocratie où les jeunes de plus en plus se détournent, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne s'engagent pas. Mm-hmm. Ils ont d'autres façons de s'engager, d'autres façons de participer, d'autres façons d'exprimer leur attachement à la collectivité, à la citoyenneté. Mais l'acte électoral reste quand même un sujet majeur et un enjeu majeur, tellement les jeunes se sont éloignés de la scène électorale.
Et c'est vrai, Salomé Berlou, on a l'impression que c'est un peu le diable qui se mord la queue, en fait. Parce que, en effet, si on rentre dans une démocratie des seniors, comme le dit Brice Teinturier, donc on est de plus en plus éloigné des jeunes, moins ils votent, moins de toute façon leurs préoccupations ne seront prises en compte et on tourne en rond, en fait, en quelque sorte. Il faut casser ce cercle-là, en tout cas.
C'est ça, parce que quand on voit, je crois que c'est une étude de la Fondation Jean Jaurès qui montre que plus de 7 jeunes sur 10 estiment être parmi la population la plus engagée. Donc ça veut dire quelque chose. Bon, c'est en partie eux qui le déclarent,
oui,
mais c'est quand même significatif. Ils se disent et ils se pensent engagés, donc ils ont le sentiment de vouloir s'intéresser à la chose publique et aux politiques au sens large, à la vie de la cité, on va dire. Pour autant, ça ne se transforme absolument pas dans le vote. Et là où vous avez parfaitement raison, c'est que il semble, et Angèle le dira sans doute mieux que moi aussi, mais dans le cadre du podcast Place aux jeunes que nous avons monté avec Chemin d'Avenir et qui nous a permis chaque semaine d'interroger un jeune sur ses préoccupations, son quotidien, ses questionnements, ses rêves, ses aspirations, et puis aussi sur la campagne présidentielle, ce qui remontait quand même, c'était cette forme de défiance vis-à-vis des candidats eux-mêmes et une attente vis-à-vis des hommes politiques qui peut paraître un peu démesurée en un sens, mais qui est un désir de transparence, d'honnêteté à l'extrême, de vrais discours de vérité et de discours qui s'appliqueraient à tous et à toutes, chose que manifestement les jeunes n'ont pas le sentiment de retrouver.
Et d'entendre surtout Angèle Minet. Est-ce qu'il y a une chose, depuis que la campagne a commencé, est-ce que vous diriez ça j'ai retenu par exemple, ça je m'en souviens? Ou est-ce que au fond, et pour reprendre l'expression de Brice Teinturier, vous aussi vous avez l'impression d'une campagne TEFAL où rien n'a accroché? Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous pouvez dire là, ah oui tiens, celui-là, quand il a dit ça, ça a sonné à mon oreille, ou pas du tout en fait. Et si c'est pas du tout, vous avez le droit, je vous rassure tout de suite.
C'est plutôt pas du tout, voilà. J'ai l'impression que par rapport aux autres années, il n'y a pas grand chose, enfin, je vois pas trop de différence en fait entre les... J'ai pas vu quelque chose qui m'a marqué plus qu'une autre année en tout cas, à part le fait peut-être qu'il y a pas mal de candidats je trouve cette année... Dans leurs propos, en tout cas, j'ai pas vu de choses finalement nouvelles qui m'auraient vraiment interpellée et qui m'auraient dit tiens, ça change, celui-là, j'ai envie de voter pour lui.
C'est marrant parce que moi j'ai l'impression que cette campagne est à nul autre pareil. En fait, Brice Teinturier, je me sens terriblement vieille en posant cette question, mais il n'y a rien qui accroche, effectivement, comme le dit notre amie Angèle, et pourtant, il y a de nouveaux personnages qui sont arrivés. Il y a un Zemmour qui a accaparé beaucoup d'endroits. Enfin, il s'est passé des choses malgré tout.
Le paradoxe, c'est qu'il s'est passé beaucoup de choses en réalité. La percée, l'irruption d'un Éric Zemmour qui vient fracasser en grande partie le vote du Front National, ce n'est pas anodin. Le niveau dans les intentions de vote d'Anne Hidalgo et la montée d'un candidat communiste qui serait devant même la candidate socialiste, ce n'est pas anodin non plus. Le bon niveau jusqu'à maintenant d'Emmanuel Macron, alors que les présidents sortants, songez que la dernière fois François Hollande n'avait même pas pu être candidat et que les autres présidents sortants ont systématiquement été battus, sauf cohabitation, ce n'est pas anodin. Et pourtant, effectivement, les Français ont du mal à s'intéresser à cette campagne, les jeunes encore plus. L'écart de participation régionale entre les plus âgés et les plus jeunes, il est phénoménal, il est de plus de 40 points. Donc il y a un phénomène de plus en plus central de distance des jeunes qui n'arrivent pas à s'intéresser à cette campagne et qui ont des préoccupations spécifiques aussi. Je crois qu'il y a ça qu'il faut souligner. Ce qui intéresse la jeunesse de ce pays, c'est pas exactement ce qu'il y a dans les programmes. Donc ça explique aussi un peu pourquoi il y a une telle distance.
Et on verra précisément ce qui se passe au Standard. Bonsoir Amina.
Bonsoir.
Je me souviens de vous. Amina, vous avez 22 ans, vous êtes en quatrième année d'archi, vous étiez intervenue ici même au téléphone. On parlait d'Erasmus à l'époque et je suis assez curieuse maintenant du coup, et merci de nous appeler, de savoir où vous allez, si vous savez où vous allez, et même si vous allez voter d'ailleurs Amina.
Eh bien justement, je me reconnais beaucoup dans le discours, je fais partie des personnes, des jeunes, résignée face à la politique. C'est que je suis quelqu'un de très engagé, hein, vous l'avez vu avec mon intervention pour Erasmus.
C'est vrai.
Mais malheureusement, on entend beaucoup de choses. On entend beaucoup de choses à la télé. Hein. Il y a une omniprésence de l'information, mais on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à comprendre. Et je vais vous dire très sincèrement, je fais partie des jeunes qui vont voter parce que c'est important de voter, parce qu'on est citoyen, mais je vais voter pour le moins pire.
Et vous savez déjà qui c'est le moins pire ? Ou est-ce que c'est une histoire d'isoloir au dernier moment, Amina ? Ou est-ce que c'est, j'en sais rien, une semaine avant, se plonger vraiment dans chacun des programmes, faire des colonnes ? Comment ça se passe, en fait, la recherche du moins pire ?
Écoutez, moi, j'ai 22 ans, donc ça va être la première fois que je vote. Parce que, quand j'ai eu 18 ans, M. Emmanuel Macron avait déjà été élu. Et sincèrement, je n'éprouve même pas l'envie de me pencher sur les programmes, parce que, même sans le vouloir, on tombe sur les informations, et ce qu'on entend dans les médias, c'est juste décourageant et c'est pour moi c'est pas des sujets qui nous intéressent aux jeunes et exactement comme disait le monsieur.
Juste teinturier. Non mais je vous en prie.
Il s'adresse pas vraiment à nous et donc concrètement on n'a pas vraiment envie de s'y intéresser. On va voter parce qu'il faut le faire. Quitte à voter blanc, quitte à voter pour le moins pire, mais.
Alors en même temps, merci mille fois Amina, merci vraiment. En même temps, c'est terrible parce que voter pour le moins pire, Salamé Berlioù, c'est aussi ce qu'on entend chez les plus vieux également. Oui. C'est aussi une empreinte de cette campagne de voter pour le moins pire au fond.
Hein. C'est ça. C'est-à-dire que vraiment, et je comprends parfaitement ce que disait cette jeune femme, mais c'est vrai qu'un vote utile à 22 ans, on peut se dire qu'il y a un vrai échec
déprimant. C'est tellement déprimant. On est bien d'accord.
De pas réussir à ce qu'il y ait des votes de conviction, d'engouement et d'envie justement de changer les choses. Et c'est vrai que dans la campagne, mais c'était déjà le cas auparavant, mais dans la campagne, je trouve qu'il y a ce paradoxe entre le fait qu'on parle beaucoup des jeunes, et notamment dans le contexte post-Covid, y compris en utilisant une forme de cliché. Alors ça va de une jeunesse sacrifiée à une jeunesse désenchantée. On entend aussi fracturée, irresponsable. Enfin bref, on entend beaucoup de choses sur les jeunes, mais en revanche, on leur donne très peu la parole. Et je pense que peut-être que le secret, alors c'est faut pas tomber dans le yaka faucon pour autant, mais le secret est sans doute là, et c'est tout le sens de l'événement des candidats et des jeunes que nous avons souhaité monter avec France Inter et Chemin d'Avenir, que de réfléchir, et à mon sens, les propositions des candidats qui pourraient intéresser concrètement les jeunes sont sans doute là. Comment faire pour rendre les jeunes de plus en plus acteurs, et pas uniquement dans la démocratie, mais acteurs mobiles, qu'ils aient le sentiment d'être aussi plus libres d'agir et de quand je parle de mobilité, je parle de mobilité évidemment sociale mais aussi géographique. Il faut du mouvement, il faut de l'effervescence et elle existe au sein de la jeunesse, mais pour l'instant il manque vraiment l'étincelle, l'allumette pour allumer l'étincelle à mon sens.
Angèle, vous savez déjà à qui vous allez poser des questions demain j'imagine ?
Oui, Fabien Roussel.
Et vous, alors on peut l'avoir en avant-première, qu'est-ce que vous avez envie de savoir de la part de Fabien Roussel qui, et on va y venir, Brice Teinturier est l'un des candidats qui titille un peu les jeunes, qui émoustille un peu les jeunes. Qu'est-ce que vous avez envie de lui demander ?
Alors moi j'ai envie de lui demander ce qu'il a envie de mettre en place pour les jeunes justement qui ont été précarisés par la crise. Ce qu'il a envie de... Enfin, comment il va les aider en fait.
Est-ce que vous avez le sentiment, par exemple, d'avoir fait partie effectivement de ces jeunes, est-ce que vous avez le sentiment que votre fin d'études a été difficile, a été extrêmement compliquée, ne serait-ce que et votre vie en fait, ces moments où on est censé pouvoir vraiment profiter de la vie parce qu'on finit ses études, on n'a pas encore la grosse préoccupation du boulot derrière. Est-ce que tout ça a été mangé par la crise? C'est le sentiment que vous avez?
Ça a été très très compliqué parce que financièrement déjà parce que je pouvais plus travailler, donc perte de revenus et se sentir vraiment isolé chez soi, sans pouvoir voir personne, sans pouvoir sortir faire des choses, ça a été très compliqué parce que ça a duré déjà plus d'un an, d'un an et demi je dirais, vraiment cette impression d'avoir été laissé tomber par l'État, enfin par tout le monde en fait, juste mis dans un coin ça a été compliqué, ouais.
On va repasser au standard avant de revenir à vous, Brice Teinturier. Bonsoir Clément.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Ah, vous parliez en début d'émission de l'inadéquation entre l'offre et la demande. J'ai l'impression que c'est un peu mon cas. Parce que sur ce que j'estime être les enjeux majeurs de l'élection, j'ai l'impression de ne pas voir les mêmes problèmes que les candidats. Déjà, on a toute une partie du spectre politique qui invoque un enjeu, la lutte contre le remplacement, qui est quelque chose que je ne vois pas et que je n'ai jamais vu. Et ensuite, parce que pour moi, il y a deux enjeux majeurs, le pouvoir d'achat et le changement climatique. Mais j'ai l'impression que les candidats, peut-être, ne comprennent pas trop ou oublient quelque chose dans leur raisonnement. Sur le premier, moi, je veux bien qu'on augmente les salaires. Mais si les dépenses contraintes augmentent aussi, j'ai l'impression que ça risque de s'annuler. Et ensuite, sur le deuxième, pour moi, si on commence pas par dire que le problème vient du fait qu'on produit et qu'on consomme trop, on n'a juste rien compris, on se trompe de cible. Et j'ai entendu des candidats parler de leurs solutions, mais jamais donner leur analyse sur les causes du problème. Et j'aimerais bien le savoir, parce que justement, ça me permet de savoir lequel semble avoir le mieux compris et va proposer les solutions les plus pertinentes et les plus efficaces.
Mais du coup, Clément, ça veut dire, pardon-moi de vous interrompre, ça veut dire que, par exemple, sur le changement climatique, le candidat écolo qui est censé incarner ce genre de problématique, même là, vous n'y trouvez pas votre compte?
Pas du tout, absolument pas. C'est typiquement un candidat qui, pour moi, se trompe de cible. C'est un candidat qui ne va pas mettre en place des mesures pour réduire la production et la consommation. Donc moi, je lirai les professions de foi, je regarderai les débats pendant la campagne officielle, mais à l'heure actuelle, parmi les candidats qui veulent vraiment être élus, qui aspirent vraiment à l'Élysée, personne ne m'intéresse. Il y a un candidat, mais c'est vraiment beaucoup plus par conviction et par vécu personnel qui m'intéresse, qui est un candidat qui met dans le débat public les problèmes d'une France rurale dans lesquelles j'ai grandi depuis des années. Et ce candidat, c'est Jean Lassalle. C'est le candidat qui, moi, m'intéresse le plus. Mais parmi les candidats majeurs, personne ne m'intéresse, personne ne semble voir les causes que moi, je vois.
Merci pour cette intervention, Clément. Brice Teinturier, ce que je trouve intéressant dans ce que nous dit Clément, c'est que du haut de ses 21 ans, moi j'ai l'impression de l'entendre aussi, de toute façon, d'autres gens, y compris plus vieux, sur le fait qu'on parle d'immigration tout le temps, alors que c'est la 4e, 5e, 6e préoccupation des Français. Ça se relie aussi dans vos sondages, y compris quand on parle des adultes, j'allais dire, des plus grands. Le pouvoir d'achat en 1, l'écologie en 2, ça aussi, c'est des choses qu'on voit. Donc l'adéquation, c'est pas seulement vis-à-vis des jeunes, peut-être plus importante vis-à-vis des jeunes parce que c'est vraiment leur truc, notamment l'environnement, mais c'est quelque chose qu'on retrouve partout ça au fil de cette campagne.
Non, mais c'est la première des choses que je voulais souligner, c'est qu'il n'y a pas de ce point de vue une spécificité absolue.
Exactement.
Des jeunes. Les Français nous disent, les jeunes encore plus, mais les Français nous disent, moi mes sujets ce sont le pouvoir d'achat, l'environnement, la santé, et les médias ou les politiques nous parlent beaucoup trop d'immigration ou de Covid ou d'autres sujets. Ça c'est la toile de fond de départ.
Oui.
Mais c'est un peu injuste hein, d'ailleurs, parce que les candidats parlent quand même beaucoup de pouvoir d'achat, mais peu importe. Je crois que ce qui nuit beaucoup à l'attrait pour les jeunes de cette campagne électorale, c'est que personne ne porte un discours, mais tout simplement d'espérance. Il y a une tonalité d'une morosité extrême, et aussi bien les Français que les jeunes ont besoin dans une présidentielle d'affronter évidemment les problèmes. Il ne s'agit pas de se raconter des histoires, il y a une jeunesse qui va mal aussi, mais d'avoir quelqu'un qui porte une espérance, y compris face à des problèmes lourds, comme le réchauffement climatique ou autre. Et ça, c'est quelque chose qui manque, c'est aussi ce qui fait que on se détourne parce que franchement, la tonalité ambiante, elle est quand même pas très attractive. Je sais pas si vous me démentirez, mais je pense que ça joue beaucoup. Il y a un clivage optimiste-pessimiste qui est très fort dans la population française. Et les candidats qui sont capables de porter un peu d'optimisme, pas béat, pas naïf, en l'argumentant, sont ceux qui, à mon avis, arriveront à mobiliser davantage les jeunes ou les Français en général.
Angèle, est-ce que vous trouvez qu'elle est mortifère, cette campagne, voilà, en fait?
Oui, un petit peu. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de vrai derrière les paroles, et qu'il y a beaucoup justement de paroles et pas beaucoup d'actes. Et que ça manque un peu d'honnêteté, je dirais, et vraiment d'écoute.
Et d'envie, en fait. Oui. Personne ne donne envie. C'est ça qui est fou, quand même, Salomé Berlioz, cette incapacité à donner de l'envie.
Oui, je suis frappée par ce que dit Angèle, que je connais depuis plusieurs années, parce que c'est une filleule de la première promotion Chemin d'Avenir. Donc, ça fait 5 ans que je la connais. Et à la fois, ce que tu dis me semble, enfin, on le voit tous les jours, et je le vois beaucoup avec les jeunes que je côtoie dans le cadre des actions de l'association. C'est-à-dire, effectivement, il y a une souffrance psychique très forte qui a été renforcée par la crise. Il y a la question de la précarité et qui est réelle, que tu soulignais. En même temps, il y a aussi des signaux d'espoir. On avait là les derniers chiffres du chômage qui montrent que le taux de chômage des jeunes est effectivement...
n'a jamais été aussi bas, en fait.
Depuis 1981. Ouais. Donc tout ça, ça compte. Et il faut le dire, il y a aussi des dispositifs qui sont lancés de façon à favoriser cet engagement-là. Je pense au service national universel, au déploiement du service civique. Donc, il y a des choses. Et pour autant, je vous rejoins totalement, Brice Ceinturier, cette nécessité de faire rêver les jeunes, et pas de manière éthérée, déconnectée des réalités. Il faudrait trouver cet équilibre entre, d'un côté, les aspirations, le rêve, les dynamiques, et le fait d'avoir les pieds sur terre et résolument ancrés dans les problématiques des jeunes.
Et d'autant, Brice Ceinturier, en regardant la livraison de votre sondage, celui du jour, en fait, celui qui concerne notamment la présidentialité, le rôle des institutions, etc. Il y a évidemment des jeunes qui répondent à ça aussi. Moi, ce que j'ai trouvé frappant, précisément, c'est que les gens veulent pas renverser la table. L'idée, c'est pas de renverser la table, l'idée, c'est pas de tout changer, de reprendre à zéro, parce que là, les institutions, par exemple, elles sont solides, là, on y est attaché.
Ce que je trouve très... évoluer, quand même.
Exactement. Hein. Les faire évoluer, mais en même temps, on y est attaché. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est plus de Parlement. Et ça rejoint peut-être aussi les préoccupations de ces jeunes-là, c'est-à-dire pour que je puisse participer à la vie politique, à un moment, il faut l'ouvrir aussi, ce Parlement-là, il faut qu'il puisse y avoir des voix qui me ressemblent, et pour l'instant, ça n'existe pas. Et ça, c'est assez frappant ce que vous nous amenez là.
Il y a toujours, et cette enquête le confirme, cette demande de participation accrue, de représentativité améliorée, et pas simplement une demande de leadership ou d'efficacité. Ce qui est très frappant aussi, c'est qu'on a demandé aux Français, parmi toute une série de dimensions, quelles étaient celles qui étaient les plus importantes à leurs yeux pour être un bon président de la République. Donc, quel est le modèle de leadership présidentiel qu'ils veulent? Et la première des réponses, c'est un président ou quelqu'un qui soit capable d'écouter, de comprendre les Français. Ensuite, vous avez faire face à des crises graves ou d'autres choses. Mais la troisième modalité, c'est aussi s'entourer de personnes compétentes et les écouter. Donc, on voit bien cette demande d'écoute qui est extrêmement forte. Maintenant, au-delà des chiffres généraux, ce qui est très frappant aussi et qui explique un peu la tenue de cette campagne, c'est que quand vous regardez catégorie de Français par catégorie de Français, sensibilité politique par sensibilité politique, ce qui frappe, c'est l'extraordinaire fragmentation. Chacun est dans son couloir et chacun met une qualité différente de son voisin dans ce que doit être un bon président. Et c'est, moi j'aime beaucoup le fait que vous appuyez chemin d'avenir, parce que c'est cette dimension collective qui n'arrive plus à se refabriquer autour de quelques élans profonds et partagés. On a l'impression que qu'un espace de délibération commun qui est la base de la démocratie représentative, eh bien, il n'existe plus. Et que tout le monde est dans son couloir. Et ne voit que ce qu'il y a dans son couloir ou de ce qu'il attend du politique.
Et ça se rejoint quand vous interrogez les gens sur l'incarnation du pouvoir, en fait. Pareil, c'est extrêmement diffus, tout ça. Comme si personne n'arrivait avec cette idée, et donc donner envie parce qu'il incarne quelque chose.
Oui, il y a aussi
la présidentialité, notamment.
On en revient à ces questions de présidentialité, à ces questions de confiance, à la capacité à se dire dans le système politique, il y a quand même un ou une candidate qui l'emporte. Ce que vous disiez aussi, mademoiselle, sur un vote ou l'auditrice de tout à l'heure qui disait je vote plutôt par défaut pour le moins pire. Maintenant, je crois qu'il importe aussi aux citoyens de rompre un peu, si vous me permettez cela, avec cet auto-système qui s'alimente, où on se dit ils ne sont pas bons, ils ne nous comprennent pas, ça ne sert à rien, etc. Parce que l'atmosphère, elle est aussi en partie ce qu'on peut en faire.
Ouais.
Et justement, dans les potentialités de la jeunesse, il y a cette capacité à un moment donné à impulser une dynamique un peu positive. Donc si elle ne vient pas de la jeunesse, elle ne viendra pas des autres catégories, ça je peux vous l'affirmer. Il y a beaucoup de candidats qui développent des discours, vous avez utilisé l'expression mortifère,
ouais.
Eh bien à preuve du contraire, il faut justement d'autant plus qu'il y ait des candidats, et surtout une partie de la population qui se mobilise sur des positions positives, sur des positions d'espérance, sur une capacité à faire les choses. Et pas à se dire ça ne va pas, ou ils ne font pas assez, ou ceci ou cela.
Alors il y avait une tentative peut-être avec autour de la primaire populaire, et puis on voit bien que ça n'a pas donné ce que la primaire populaire espérait que ça donne en tout cas, et c'est le sens de la question de Raphaël. Bonsoir Raphaël.
Oui, bonsoir.
On vous écoute.
Voilà, je me présente Raphaël, je suis un jeune architecte qui habite en Bretagne. J'ai donc voté durant la primaire populaire en espérant que c'était peut-être une dynamique qui allait apporter des solutions par rapport à ces élections. Où aujourd'hui, j'ai pas l'impression en fait qu'il y ait de candidats qui incarnent réellement les enjeux en fait que j'essaye de défendre, notamment sur le changement climatique, sur l'accueil des réfugiés qui va falloir prendre en compte, notamment des mineurs isolés, etc. Et puis moi, de mon côté, peut-être mon pouvoir d'achat après 5 ans d'études en école d'architecture, j'avoue qu'il est aujourd'hui difficile de trouver un logement, enfin de pouvoir subvenir à ses besoins par rapport à 5 ans.
Pardon, c'était la fin, Raphaël.
Oui, pardon.
Non, je vous en prie. Alors j'avais cru comprendre que vous aviez participé à la primaire populaire, en fait.
Oui, c'est ça, exactement, ouais.
Et alors ?
En fait, je me suis rendu compte que c'était plus une initiative pour que aussi Christiane Taubira puisse se présenter. Et finalement, ça a plus engendré en fait de
divisions supplémentaires.
Ouais, de divisions supplémentaires entre les différents les personnes, les candidats en tout cas du parti de gauche. En gauche, pardon.
Non, mais pas de souci, Raphaël, et merci beaucoup. Angèle Minet, ça vous a tenté, vous, par exemple, du haut de votre âge, la primaire populaire, ou pas, cette idée qu'on pouvait amener quelqu'un différemment, en fait, à l'intérieur de du grand bain politique, hein, ou pas du tout ? Parce que vous n'avez peut-être pas suivi, et vous avez le droit.
Non, j'avoue, je n'ai pas trop suivi.
Et ça, moi, je trouve ça intéressant, en fait, Salomé Berliou, parce qu'à un moment, on l'a amené aussi comme une nouvelle manière de faire de la politique, une nouvelle manière d'entrer même en politique, de faire entrer la voix des citoyens. Ça n'a pas plus accroché, en fait, visiblement, en tout cas pas plus que ça, le jeune électorat, comme Angèle, par exemple.
Mais c'est là où, à mon sens, une éducation à la démocratie, et vous le disiez, Brice Teinturier, de façon aussi à mettre les jeunes, alors je ne sais pas si on peut dire aux affaires, mais en tout cas en position de comprendre mieux ce qui se passe, en position d'agir. Faut-il imaginer une assemblée nationale des jeunes, une assemblée nationale bis qui permettrait aussi aux jeunes, dès le plus jeune âge, d'être des représentants de leurs concitoyens. Vous verrez, demain, avec la Fondation Jean Jaurès, nous rendons public un contrat, le contrat Jeunesse 2022, sur lequel nous avons travaillé avec près de 30 associations et qui, justement, propose aux différents candidats 12 propositions concrètes pour la jeunesse. Donc, ça aide un travail de terrain par ces associations qui représentent plus de 3 millions de jeunes et puis que nous avons mené suite à des interviews de jeunes, notamment des 100 jeunes qui participent demain à la journée des candidats et des jeunes. Et donc, je pense que ces propositions-là, que je ne peux pas encore révéler parce qu'elles seront publiques demain, mais elles vont dans le sens de ce que dit à la fois Angèle sur le côté pragmatique et vraiment terre à terre et les besoins des jeunes dans leur réalité du quotidien, et en même temps ce que vous disiez Brice Teinturier sur la nécessité d'une forme de hauteur, de fraîcheur et en tout cas de dynamique autre que ce qu'on sent dans ce contexte un peu mortifère, effectivement.
Allez-y Brice Teinturier.
Mais dans ce que Raphaël nous disait à un instant, il y a quelque chose aussi qu'il faut vraiment rappeler, c'est que les problèmes financiers des jeunes, c'est une réalité. Quand on travaille et quand on fait des enquêtes auprès de la jeunesse, parmi leurs soucis, il y a tout simplement et très fort fortement un souci financier. Ensuite, d'accès au logement, de capacité à vivre à peu près correctement. Mmh. Et ensuite, le deuxième problème, mais une fois qu'on a rappelé celui-là, c'est que la jeunesse, elle a une conscience aiguë, par exemple, de l'enjeu, parce qu'elle va le vivre et qu'elle le sait, du réchauffement climatique. Ouais. C'est un truisme de le rappeler, mais il faut quand même le rappeler. Et par rapport à ce qu'elle sait qu'elle va vivre et à quel point c'est un enjeu pour la jeunesse, il n'y a probablement pas une prise en compte par les responsables politiques à la hauteur de l'enjeu suffisamment forte. Donc vous avez ensuite des jeunes qui se disent « moi je galère » pour une bonne partie d'entre eux, et puis ce qu'on me propose ne correspond pas à ce que je vois être le sujet majeur pour moi.
Et voter aux élections n'est plus aujourd'hui considéré comme la meilleure manière de changer les choses.
Alors
et
après,
c'est peut-être ça qui est un souci.
Thématique, absolument. Il y a vraiment les formes d'engagement politique traditionnelles qui ne parlent plus aux jeunes. J'ai envie de dire hélas, parce que malgré tout, c'est quand même toujours comme cela que les décisions finissent par se prendre, en tous les cas aujourd'hui, et que du coup, si les jeunes ne sont pas sur cette scène électorale, eh bien ce sont encore une fois les plus âgés, les plus insérés qui feront des choix à leur place et parfois à leur détriment. Mais oui, le système traditionnel, on vote tous les 5 ans ou tous les 4 ans, tous les 6 ans, ça ne leur parle de moins en moins.
Est-ce que gauche-droite, ça vous parle par exemple, Angèle, ou pas du tout? Est-ce que c'est ça pour le coup, c'est encore là aussi, c'est une ligne de démarcation pour vieux électeurs qui savent où chercher chacun dans son couloir. Est-ce que vous, ça vous parle? Est-ce que vous regardez même l'étiquette ou est-ce que l'étiquette vous indiffère au fond?
Alors, ça me parle un peu, mais j'ai plus l'impression maintenant qu'avec le nombre important de candidats, c'est que tout le monde, enfin, il n'y a pas une ligne très définie entre gauche et droite, je trouve, par rapport à tous les candidats qu'il y a. Il y en a qui vont être un peu des deux, plus à gauche, plus à droite. Donc, pour moi, ça n'a pas une étiquette qui est importante, en tout cas.
Donc, ça veut dire
que chacun va défendre des choses différentes qui vont se rallier un petit peu. À gauche, à droite, oui, mais aussi un petit peu aux deux.
Enfin, quand votre choix sera fait, ça veut dire que est-ce que vous imagineriez un choix à l'aveugle, c'est-à-dire vous regardez les programmes, vous cachez les appartenances politiques et peu importe à la fin l'appartenance politique, est-ce que ça peut se jouer comme ça au fond?
Ça pourrait, oui, selon les propositions, oui, ça pourrait être.
Il y a cette application qui s'appelle Élise qui fonctionne très bien auprès des jeunes. Et de ce point de vue-là, on peut avoir des surprises d'ailleurs parce qu'on sélectionne.
Moi aussi, j'ai joué, j'ai eu beaucoup de surprises. Mais je
et on peut être un peu atterré en partie du choix final.
J'ai été assez atterré moi aussi, personnellement.
Peut-être sur la question de l'engagement, pour rebondir sur ce que vous disiez, je pense fermement, et je le vois tous les jours, alors là, je mets ma casquette chemin d'avenir sur la ruralité, mais que dans ces territoires-là particulièrement, vous avez des jeunes à qui on vient dire avec l'association « Engagez-vous et on va vous donner des moyens concret pour le faire, dans votre région, dans votre département, dans votre commune, dans votre établissement. Dans un premier temps, ils ouvrent des yeux grands comme ça parce qu'on ne leur a jamais vraiment dit qu'ils pouvaient s'engager. Et ensuite, quand on leur donne des moyens opérationnels de le faire, mais en 3 semaines, c'est réglé et ce sont les plus engagés qui soient. Donc ça, c'est marquant.
Alors, je voudrais qu'on écoute Léa. Bonsoir Léa.
Bonsoir.
On vous écoute.
J'ai 23 ans, moi du coup, ça va être la deuxième fois que je vote. Et en fait, je voulais simplement réagir par rapport au fait que à 18 ans, on n'est pas forcément assez bien informé de ce qui se passe au niveau de la politique, c'est-à-dire du fonctionnement de la politique en général, en fait. De savoir comment est géré un gouvernement. On n'a pas les moyens de reprendre assez le pouvoir sur ce qui nous concerne directement, j'ai l'impression.
Mais est-ce qu'à 23 ans maintenant, vous avez le sentiment que vous avez pu vous les accaparer, ces pouvoirs-là? Vous comprenez mieux comment ça fonctionne ou toujours pas, en fait?
Alors oui, de mieux en mieux, mais parce que je m'y intéresse grandement et que je mets en œuvre tout ce que je peux à 2 mois des élections pour me renseigner sur chaque programme. Enfin, à l'heure où on a sans arrêt des images qui sont passées sur les candidats, sur les canaux principaux, ils se bouffent entre eux, chacun les uns les autres, et pourtant on n'arrive pas à distinguer un bribe d'idée qui soit concrète, en fait.
Merci.
Ça dommage.
Merci beaucoup, Léa. C'est intéressant ce qu'elle dit, Léa, sur le fait qu'à 18 ans, c'est parfois compliqué. Quand on pense que beaucoup sont en train d'essayer d'aller jusqu'au vote à 16 ans, d'aller au vote à 16 ans, ça dit quand même des choses sur finalement la vraie différence qu'il peut y avoir entre certains jeunes qui, à 16 ans, se sentent déjà tellement impliqués que oui, ils pourraient aller mettre un bulletin dans l'urne parce qu'ils savent comment ça fonctionne, et ceux qui ont un peu de mal. Est-ce que vous avez eu un peu de mal, vous, Angèle, à comprendre comment comment tout cela fonctionnait. Si on vous avait donné le droit de vote à 16 ans, vous auriez dit « oulala, trop tôt » ou vous auriez eu cette gourmandise en fait ?
Je pense que j'aurais eu cet effet, c'est beaucoup trop tôt dans le sens où c'est pas, on a aucun cours dessus, on sait pas trop ce que c'est assez loin, et justement c'est ça qui je trouve dommage aussi comme disait Léa.
Ouais, Léa. Ouais.
Je pense qu'on n'est pas assez tôt mis dans le bain et il faudrait peut-être avoir des cours ou des intervenants ou enfin quelque chose qui nous explique déjà comment ça fonctionne et à partir de là peut-être les gens seraient déjà plus intéressés et iraient chercher. Mais c'est vrai que même à 18 ans, je suis allée voter mais sans vraiment savoir ce que je faisais.
Pardon, Brice Teinturier, je ne vois pas votre visage, mais je vois vos yeux qui font comme ça, donc allez-y.
C'est parce que ce que je trouve fascinant et qui remonte des différentes interventions, c'est qu'on voit bien que la clarté du système, eh bien, elle n'est pas là. Et qu'il y a une difficulté à décrypter l'offre, à trouver l'information, à voir ce que les candidats, vous l'avez dit tout à l'heure, ont de différent les uns des autres. Le clivage gauche-droite, il ne fonctionne plus vraiment, mais c'était un clivage qui permettait de donner de la clarté. Il y avait la gauche avec quelques grands marqueurs, la droite, et là on est dans un système beaucoup plus explosé, beaucoup plus émietté. Et le grand paradoxe, c'est que jamais l'information n'a été aussi accessible. Sincèrement, vous pouvez accéder aux propositions des candidats, mais de manière beaucoup plus rapide et facile que ce n'était le cas à notre époque, bah, si
absolument.
Vous me permettez.
Oui, bah oui, donc, oui, vous avez raison.
Et malgré tout cela, malgré une offre qui est très large, eh bien le sentiment, on le voit bien que vous avez, c'est que c'est complexe, c'est difficile, ça ne parle pas vraiment, que tout ça c'est un brouhaha et que ça n'émerge pas. C'est ça qui est quand même très frappant et très préoccupant.
Et ça le met vers lui. Moi aussi j'ai envie de faire ma vieille. En fait, des fois je me dis, mais alors oui, c'est pas toujours simple, mais on peut aussi être proactif et aller chercher les informations. Effectivement, elles sont là. Et on a le sentiment que cet effort-là, honnêtement, n'est pas toujours fait. Est-ce que je me trompe ?
Je pense malgré tout qu'on retombe dans ces cas-là sur une histoire aussi du poids de la famille. Hein. C'est-à-dire, il y a des jeunes dont les familles vont encourager cet engouement-là, des familles au sein desquelles on parle politique à table, où on écoute France Inter le matin quand on se réveille et qu'on prend son petit déjeuner. Et puis des familles où cet accès à l'information est aussi plus lacunaire, moins explicatif, moins factuel. Et dans ces cas-là, c'est très difficile pour les jeunes de sortir d'un état effectivement de morcellement vis-à-vis de toutes les informations qui leur tombent dessus. C'est souvent ce réflexe qu'on a aussi de dire aujourd'hui avec le numérique, par exemple pour l'orientation, en un claquement de doigts on a accès à toutes les formations possibles sur internet et on peut s'orienter grâce à internet. On voit en réalité que c'est compliqué.
Il y a de la confusion aussi.
Exactement.
C'est fini, mais juste une question, Angèle, est-ce que vous alliez voter avec vos parents par exemple quand vous étiez petite dans l'isoloir ou pas?
Non.
Ben voilà. Est-ce qu'il vous... Non, mais voyez, ça fait aussi partie de cette espèce de culture du vote qu'on ait un certain nombre à avoir eu pour rendre les choses peut-être un peu plus simples. En tout cas, on vous souhaite une bonne séance demain au Studio 104 avec les 8 candidats. Vous avez une question prête pour Fabien Roussel. Eh ben, écoutez, on sera ravis de l'entendre lorsque vous la poserez. Merci vraiment. C'est un grand rendez-vous. Ça commence à 10h au Studio 104. On aura l'occasion d'en reparler évidemment sur l'antenne de France Inter avec 8 candidats chacun, 45 minutes pour convaincre les plus jeunes. Merci beaucoup. Merci à tous.